Bon début de soirée sur Europe 1. Votre grand journal du soir avec Mathieu Bélier.
Et avec Marion Calais à la une, le discours de politique générale et Édouard Philippe qui obtient la confiance de l'Assemblée.
Oui, avec 363 voix en sa faveur, légèrement en baisse par rapport à son précédent discours de politique générale en 2017. Le Premier ministre qui a voulu aujourd'hui relancer le train des réformes. Assurance chômage avec un bonus-malus pour les secteurs utilisant le plus de contrats courts. Retraite avec la fin progressive des régimes spéciaux. Bioéthique avec l'extension de la PMA à toutes les femmes. Et en matière d'économie, le Premier ministre a promis une accélération sur les 12 prochains mois.
Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert, et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. J'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité. Partout, nous constatons les dérèglements climatiques, la pollution de l'air, des sols et des mers qui menacent notre santé et la biodiversité. Alors je ne me ferai pas passer pour un autre. Je ne suis pas un défenseur de la décroissance. Je crois dans la science. Je voudrais qu'elle ait plus de place dans le débat public, que nos décisions soient davantage éclairées par elle.
Édouard Philippe qui, dans le détail, promet que les plastiques jetables seront bannis de l'administration dès l'an prochain et également que les aides à la rénovation énergétique seront remises à plat. Urgence écologique donc, urgence sociale, urgence économique. Voilà ce à quoi entendait répondre le chef du gouvernement qui a parlé donc d'un acte 2 du quinquennat. Tout cela n'est qu'un bégaiement de l'acte 1 pour Jean-Luc Mélenchon qui promet de poursuivre le combat.
Monsieur le Premier ministre, savez-vous que vous avez, vous aussi, perdu l'élection ? Mais je vois bien que non. 80% des bulletins de vote se sont portés sur des listes qui vous étaient ouvertement opposées. 90% des inscrits vous ont refusé leur appui. Et pourtant, vous voulez faire comme si de rien n'était. Vous pensez gouverner contre tout le monde avec 20% des suffrages exprimés et 10% des inscrits. Et cela pour continuer à tout détruire de l'État social et républicain patiemment construit par les générations précédentes. Dès lors, toute votre politique est un passage en force contre le pays.
Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée tout à l'heure. La décision de la cour d'appel de Besançon, le docteur Péchier mis en examen pour 24 empoisonnements, reste en liberté sous contrôle judiciaire. Victoire du droit pour son avocat. Les parties civiles, elles ne cachent pas leur déception. Maître Frédéric Bernard représente certaines d'entre elles.
C'était pas forcément une décision qu'on n'attendait pas, puisque il avait déjà bénéficié quand même d'une position relativement clémente jusqu'à présent. Donc il y a une vraie incompréhension, si vous voulez. Quand la Cour vous dit, voilà, on sait que vous avez commis de graves entorses à votre contrôle judiciaire, mais on vous invite à ne pas recommencer parce que sinon la prochaine fois, ça sera la détention. On se demande quelle est la limite, si vous voulez. Et je pense que le problème, c'est que les justiciables peuvent se poser la question, finalement, un contrôle judiciaire, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un peu surprenant, mais c'est ainsi.
L'avocat de plusieurs parties civiles dans l'affaire Péchier à Besançon, il répondait pour Europe 1, Arthur Mbaché. Ils ont manifesté toute la journée, refusant de relayer l'équipe de nuit, les surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe, de nouveau mobilisés après la prise d'otage de la nuit dernière. Un détenu qui a retenu deux surveillants pendant plusieurs heures. L'homme était déjà connu pour des faits similaires. Il était pourtant classé auxiliaire, c'est-à-dire qu'il participait au service des repas ou au ménage, un statut qui ne devrait être appliqué qu'au cas par cas pour ce surveillant.
Quand on est classé auxiliaire d'État, ça veut dire qu'on permet aux détenus de servir le repas à ses autres co-détenus. Le problème, c'est qu'il a des ustensiles de cuisine, il a une marge de manœuvre, donc il doit nettoyer son aile, il a des tâches à faire. Mais le problème, c'est que pendant qu'il est en mouvement, nous, on doit tout le temps être attentif. Et il y a des mois, on est attentif avec un détenu, lui, il fait son ménage derrière, il peut nous prendre par surprise. Et c'est complètement ce qui s'est passé, en fait. Et en fait, on tend la perche pour se faire battre. Le problème, c'est qu'on gère des détenus super dangereux, libérables en 2060, comme si on gérait un détenu qui est libérable en 2020. Il a refait une prise d'otage hier, donc il va reprendre encore une peine. Il est en prison depuis l'âge de 20 ans, il en a 36. Libérable en 2060, des personnes comme ça, on ne peut plus rien faire pour eux.
Grégory, surveillant à la prison de Condé-sur-Sarthe, il répondait à Mathieu Bock pour Europe 1. Il était en reconnaissance avant le contre-la-montre du Dauphiné Chris Froome, victime d'une chute à la mi-journée à Roanne. Lancé à grande vitesse, en descente, le Britannique, poussé par une rafale, a heurté un mur. Accident grave, dit le manager de son équipe. Possible fracture du fémur. Le quadruple vainqueur du Tour ne sera pas au départ de la prochaine grande boucle à Bruxelles. Ça va changer la donne, prédit déjà le patron du Tour, Christian Prudhomme.
La première réaction, c'est de penser à lui, parce que la chute est une chute sérieuse, vraiment sérieuse, avec cette fracture du fémur. Naturellement, le Tour de France, d'une certaine manière, va manquer de repères. Chris Froome, c'était le personnage central depuis 2013, depuis sa première victoire sur le Tour dans la 100e édition. Il est bien évident qu'avec ou sans Froome, ça ne peut être la même chose. Naturellement, la fin du critérium du Dauphiné va être extraordinairement intéressante et ouverte, puisque le coureur qui gagnera sur le Dauphiné se dira que, et pourquoi pas moi sur le Tour de France, puisque ces dernières années, 5 fois sur 7, le vainqueur du Dauphiné était celui du Tour de France. Donc, on va regarder ça avec attention, évidemment, notamment dans le dernier week-end de montagne.
Christian Prudhomme, joint pour Europe 1 par Jean-François Pérez. Et pour l'instant, c'est un autre Britannique qui a pris la tête du Dauphiné, Adam Yates. Un engouement qui se confirme pour l'équipe de France de foot dans le mondial. L'Alliance Riviera de Nice affiche complet pour le match de ce soir contre la Norvège. Bonsoir, Julien Fromont.
Bonsoir.
Vous êtes à Nice pour Europe 1. Vous allez nous faire vivre la rencontre ce soir, ce deuxième match des Bleus, qui est en fait un premier vrai test dans la compétition.
Ah oui, c'est un test grandeur nature pour les Bleus face à la Norvège, 12e nation mondiale. C'est simple, une victoire et l'équipe de France serait qualifiée pour les 8e de finale, mais pas encore assurée de terminer première de son groupe à cause de la victoire du Nigeria cet après-midi contre la Corée du Sud 2-0. Des Bleus qui devraient évoluer avec un 11 de départ similaire à celui du match d'ouverture. Les doutes autour de Wendy Renard et de Jenny Le Sommer ont été levés. C'est une équipe de France conquérante avec l'envie d'envoyer un message clair à la concurrence. Elle est armée pour jouer le titre mondial. Et vous l'avez signalé, comme ce fut le cas au Parc des Princes, à nouveau, le stade affichera complet 34 000 spectateurs attendus ce soir. Et déjà, des drapeaux bleu, blanc, rouge qui fleurissent dans les travées du stade de l'Alliance Riviera.
Julien Fromont à Nice pour Europe 1, émission spéciale dès 20h avec Lionel Rousseau. Et match à suivre en direct à partir de 21h.
Merci Marion Calais, il est 19h07.
Europe 1.